C'est d'ailleurs comme ça qu'on va commencer aujourd'hui en philanthropie, puisque selon Imagine Canada, qui est un lobby dans le domaine caritatif, le ralentissement économique pourrait causer jusqu'à, ben, disons, entre 9 et 15 milliards de pertes pour les organismes qui dépendent de la générosité de monsieur, madame, tout le monde. Et pour en parler, ben, on prend le temps d'appeler Daniel H. Lantaigne, qui lui est consultant chez BNP Performance Philanthropique. Il a été également président désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Qui vous a désigné, Daniel, comme président?
Ce sont les membres, à vrai dire, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un peu plus de 300 membres dans la province du Québec qui se réunissent dans cette association-là, justement, notamment pour aborder l'impact de la COVID-19, mais en tout temps pour parler d'éthique, de bonnes pratiques, de collecte de fonds, de comment on peut finalement demeurer des bons professionnels dans ce secteur-là. Et là, c'est eux qui m'ont élu, acclamé, ouais, président désigné. Voilà.
Bon, on a beaucoup d'articles qui traitent justement de la précarité qui pourrait subvenir à cause de la situation actuelle, ce qui fait que, bon, j'y reviendrai peut-être si on a le temps, mais j'avais envie de prendre l'occasion pour parler, disons, macro. La crise actuelle va-t-elle forcer l'industrie de la philanthropie à se repositionner ou, au contraire, attendons, laissons passer la tempête et soyons actifs après coup? Qu'est-ce qui est suggéré dans les cartons, là? Quoi pensez-vous?
Ben, tout à fait. Il faut se réinventer. Il faut quitter le mode réactif dans lequel les organismes sont tombés rapidement. Et ça, vraiment, chapeau bas aux organismes qui se sont revirés de bord très vite. Mais il faut revoir comment on va faire l'entièreté de notre collecte de fonds, parce que la collecte de fonds se fait sur différents programmes ou différents aspects. Évidemment, il y a la lettre qui est envoyée par la poste, ouais, souvent la sollicitation téléphonique, des campagnes majeures, des programmes de dons majeurs, même des dons planifiés. Puis bon, il y a de l'événementiel. On comprend que l'événementiel, en ce moment, c'est pas la panacée, hein, et ça sera certainement pas une source intéressante de revenus financiers pour cette année. On en voit qui se sont réinventés. Mm-hmm. Hein. On a vu le relais pour la vie qui est devenu comme un relais virtuel, le roulon pour la faire des jeux où les gens allaient sur des vélos, ça devient un peu impossible de se regrouper sous un grand chapiteau. C'est devenu un party de diabète de type 1, des psychosites, des courses virtuelles, bref. Tout le monde en ce moment est en mode solution et je voudrais que depuis la mi-mars, les gens sont tombés en mode solution rapidement parce que, dépendamment du type de don, vous savez, demander un don de 50 $, c'est une chose. On peut faire une lettre, un téléphone et on peut le faire en ligne. Demander un don de 500 000 $ à, disons, une entreprise ou une fondation privée, ça se fait pas par un texto, ça se fait pas par un simple courriel, ça se fait souvent face à face, en personne, une discussion qui est basée sur une relation qui s'est développée au fil du temps. Et là, le face à face, il est rendu franchement très difficile, à 2 mètres de distance éventuellement, lorsqu'on sera plus confortable, tout le monde de le faire. Ça sera une chose, mais je dirais, en ce moment, on doit se reposer chacune de ces questions-là. Comment on les fait? Vous savez, la semaine passée au cabinet, il y a quelqu'un qui a fait une sollicitation d'un don majeur avec une conférence Zoom. Ça s'est bien passé. Wow. C'était une première.
Mais c'est parce que la personne était déjà convaincue. Si la personne était prête à s'asseoir pour assister à la conférence, c'est qu'elle était déjà vendue. Mais moi, je sais que si on me demandait aujourd'hui, Luc, peux-tu m'aider? J'ai tellement la tête ailleurs que je n'ai plus ce réflexe-là. J'avoue, j'ai même... Il y a un don mensuel que je donne automatiquement et j'ai même pensé l'annuler à cause de ma précarité. Là, j'essaie de me dire, Fortin, commande, là, mais je ne dois pas être le seul.
Non, puis vous avez tout à fait raison. C'est des questions qui se doivent de se poser en ce moment. Et vraiment, on dit aux organismes, revenez à la base. La base, c'est quoi? C'est qu'on fait de la relation humaine. Hein? Évidemment, on demande humainement à quelqu'un de nous donner quelque chose en fonction de ses capacités financières, mais on va souvent aller aider des populations plus vulnérables. Mmh. Et en ce sens-là, on dit, reconnectez plus que jamais avec vos donateurs. Appelez-les, donnez-leur de vos nouvelles, demandez-leur comment ils vivent ça. Et là, éventuellement, plus tard, on pourra parler d'une sollicitation d'un don d'une certaine ampleur. Mais pour l'instant, il faut reconnecter plus que jamais avec les donateurs. Il faut démontrer qu'avant la COVID, la cause était pertinente, la cause répondait à un besoin urgent pour une clientèle ou une population. Mais que malgré la COVID, ça continue d'être encore le cas. Mais il faut aussi, comme vous l'avez bien mentionné, ajouter une dose de contexte. Dire, on comprend qu'évidemment, votre situation financière, elle ne le permet peut-être pas en ce moment. Allez-y à la hauteur de votre capacité. Si votre capacité en ce moment, ce n'est pas de don, c'est correct. On se reparlera plus tard, mais maintenir ce lien de communication-là, parce que, évidemment, un organisme qui ne maintient pas ce lien-là, il va voir son donateur peut-être dirigé vers une autre cause éventuellement, oublier cette cause-là parce qu'il n'y aura plus ce canal-là. Donc, c'est très important de mettre tout ça dans le contexte.
En même temps, Daniel, une des raisons pourquoi moi j'ai pensé arrêter, c'est que je reçois de plus en plus de courriels de la part de cet organisme-là. Et là, ça commence à m'achaler. Est-ce que, justement, il n'y a pas des organismes qui devraient peut-être, je comprends les besoins, mais ralentir pour ne pas tout perdre?
Ouais. je ris, puis c'est pas tout à fait drôle, mais effectivement, autant on dit qu'il faut maintenir le
canal de communication,
qu'il y en a qui sont peut-être tombés dans l'excès
de communication. Oui.
Parce qu'effectivement, si on n'a rien à dire, l'adage dit de dire rien. Donc, il faut demeurer très pertinent, il faut démontrer justement, puis réaliser au bout de certaines non-réponses, par exemple, des donateurs, ben, faut peut-être ralentir la cadence, mais vous avez tout à fait raison. Autant il faut informer, il faut mettre dans le contexte, comme à un moment donné, il ne faut pas non plus brûler nos donateurs. J'aime pas l'expression, mais dire qu'on les a finalement un peu trop sursollicités, un peu trop achalés. Même principe que la sollicitation postale, quand vous recevez peut-être des fois 10 lettres d'une même fondation dans une année, toujours bien que vous aimiez la cause. Ça se peut qu'au bout de 10 lettres, vous commencez à trouver que l'effort est peut-être un peu grand pour ce que vous allez leur donner.
Ben, surtout que c'est parce que, en tout cas, dans mon cas, et je suis certain que je ne suis pas le seul, parce qu'on est convaincant dans les lettres, là, on nous montre c'est de type. Santé publique, l'organisme que je soutiens. Donc, évidemment qu'il y a plein de bonnes raisons de donner par les temps qui courent, mais moi-même, je m'arrache les cheveux, confiné dans ma maison, non-voyant, avoir de la difficulté à trouver quelqu'un pour m'aider à mon épicerie et tout et tout. Donc, tu sais, voilà. Est-ce qu'on a une idée, parce qu'on parlait tantôt de lettres, de dons automatiques, en fait, de plein de manières de donner, et il y a les événements que l'on organise. A-t-on idée du pourcentage qu'on va chercher dans les événements et du pourcentage des autres types de... on a parlé de 9 à 15 millions, là, mais, de milliards, mais...
Bien, les événements, dépendamment des organisations, je vais vous dire, il y en a qui étaient... Et puis, on a déjà sonné l'alarme il y a quelques années, puis on le fait encore aujourd'hui plus que jamais, dire il ne faut pas être trop dépendant aux événements. Et là, on réalise des fondations qui avaient trop de dépendance, qui avaient peut-être un 30 jusqu'à un 50 % de financement qui venait des événements. Bien, évidemment, leur santé est à péril, ils sont en situation de précarité. Et on le voit, on a fait une étude, il y a uniquement 20 % des organismes qui sont en ce moment capables de maintenir l'entièreté de leurs services selon les données qu'on a eues chez DNP. 90 % sont extrêmement affectés et c'est principalement ceux qui reposaient beaucoup de leurs attentes dans les événements. On le sait, les événements, bon, oui, ça reste nécessaire, ça permet de faire du réseautage pour les donateurs, ça permet de vivre une expérience. C'est aussi une charge financière importante. Le ratio des événements est souvent élevé. C'est correct de le faire parce que ça permet un certain rayonnement. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça a l'air très simple, mais ça reste que c'est un exercice qui demande du temps de revenir à la base, comme je disais, de reconnecter avec ses donateurs, de savoir pourquoi ils donnent, qu'est-ce qui les motive envers l'organisation et d'adapter finalement son argumentaire en fonction de ça.
Ben, d'où l'importance, j'imagine, au risque de faire des événements édulcorés, d'essayer quand même de faire des événements, que ce soit en ligne ou pour montrer qu'on est proactif, pour montrer que la cause est importante. Parce que si tu montres à ton donateur pendant 2 ans que tu as pu fermer boutique, ben finalement, le donateur va se dire « Bon, OK, finalement, c'était pas si important que ça. » Alors, on a comme pas le choix.
Tout à fait. Un organisme qui donne l'impression qu'il est mort ou qu'il est sous respirateur artificiel, le donateur va se poser la question de dire, ben, finalement, hier, c'était la cause la plus importante. Tout à coup, il y a la COVID. Ça semble plus être une cause importante. Pourquoi je continuerais de donner à cet organisme-là? Donc, ça se fait, bon, oui, par la communication. Ça se fait par des événements, vous dites, justement, là, des gens qui se tournent vers le virtuel, tout ça. On avait vu au début du mois de mars, tout le monde reportait son événement en automne. On disait, mon Dieu, l'automne va être chargé comme c'est pas possible.
C'est vrai.
Là, évidemment, tout le monde est arrivé dans une résidence et ben, à l'automne, ça sera peut-être pas possible, probablement pas en termes de nombre de santé publique. Et puis, deuxièmement, le donateur ou le participant à un événement, selon où il est dans sa posture mentale face à la COVID, n'aura peut-être pas le goût de s'en aller dans un événement, toujours même qu'il y a plein de règles sanitaires, d'aller se coller sur des donateurs qu'il ne connaît pas. Chacun réagit à la COVID de façon personnelle. Donc, l'automne semble de moins en moins probable. Et je vous dirais, d'ici la fin de l'année, en événement philanthropie en personne, j'en vois pas vraiment sur le radar. Et on voit tous les organismes qui essaient de trouver des solutions virtuelles, tant mieux. Il va vraiment falloir se démarquer. Ça va prendre un Ice Bucket Challenge de l'événement virtuel. Géniale. Parce que là, tout le monde fait des événements à la maison et c'est parfait. Tout le monde est en mode survie. Alors, chapeau à la fondation ou à l'organisme qui trouvera le moyen de tirer son épingle du jeu là-dedans.
Il y a des organismes donc qui ont pu réduire leur personnel, leur cahier de charges, mais d'autres, je pense entre autres à la fondation Mira, qui doivent continuer de faire vivre les chiens, que ce soit le chenil, la pouponnière, les vétérinaires, les entraîneurs, la bouffe. Qu'est-ce qu'on fait pour ces organismes qui n'ont pas le choix, qui ne sont pas soutenus par le gouvernement, vraiment où c'est difficile de réduire dans les dépenses?
Oui, effectivement, Mira, c'est un bon exemple, là. Et puis il y en a plein d'autres, là, la situation des personnes itinérantes, les banques alimentaires qui ont quand même eu beaucoup d'éclairage sur leur situation. Par chance, le secteur communautaire, avec l'aide des différents gouvernements, a créé un fonds d'urgence. Donc, je pense beaucoup à la Fondation du Grand Montréal, entre autres, qui est un des organisateurs, qui est un des partenaires pour aider ces fondations-là qui ont des projets d'urgence en ce moment pour maintenir leur financement. Alors, c'est nécessaire et par chance que ça existe pour pallier à tout ça. On se tourne un peu, on s'est toujours tourné du côté des dons des entreprises. Évidemment, il faut bien regarder quel secteur est touché, quel est moins touché. Parce qu'évidemment, bon, eux aussi vivent avec les aléas de leur budget en termes de dons et commandites. Donc, il y a ces avenues-là vers lesquelles on se tourne. Mais effectivement, on est tous dans le même panier. Puis, à un certain point, il y a une certaine charge financière que globalement, on peut tous prendre. Si l'État donne un certain montant aux OBNL, cet argent-là, il va devoir être retrouvé quelque part. Donc, il y a une capacité financière limite, mais il y a beaucoup de moyens. Vous parlez d'Imagine Canada. Il suggère évidemment plein de mesures que le gouvernement pourrait adopter. Que ce reste de mettre un programme temporaire de bonification de crédit d'impôt. On l'a vu chez les clients de BNP. 90 sont favorables. Donc, il y a plein de solutions. Après ça, bon, évidemment, il faut les voir, mais c'est pas petit comme secteur. C'est quand même 8% du PIB, là, le secteur des organismes de bienfaisance.
Oui, c'est pas énorme, mais en même temps, c'est pour plein de gens, c'est essentiel. Daniel H. Lantaigne, consultant chez BNP Performance Philanthropique, et je disais, bon, président désigné au Québec de l'Association des professionnels en philanthropie. Merci beaucoup.
Merci, M. Fortin. Bonne journée.